Et on va accueillir, comme il se doit, notre invité du jour. En même temps, quand je parle d'invité, voilà, vous faites partie de la grande famille. Michel,
Presque.
bonjour.
Bonjour Joël.
Voilà, Michel Favret, chronique astro numéro 43. Voilà, juste deux mots sur constellations et galaxies. On en dira un petit peu plus à la fin. Et après, on vous écoute hein, pour cette nouvelle chronique astro. Donc, en deux mots, constellations et galaxies, l'association que vous représentez ici derrière le micro.
Oui, alors comme à chaque fois, je vais me faire gronder en disant que c'est une petite association, par le nombre de membres, mais pas par l'activité.
Bien sûr, il y a un
donc,
volume d'activité tel que...
La diffusion de la culture scientifique en Aquitaine, hein, je pourrais dire dans le nord de l'Aquitaine, parce que ça va bien au-delà de la Dordogne, puisqu'il y a y compris l'agglomération bordelaise, et principalement dans le domaine de l'astronomie, et surtout avec un planétarium itinérant qui peut venir dans différents types de structures. Bon, on travaille beaucoup en scolaire, avec des écoles primaires, des collèges, un peu moins les lycées, mais ça peut être aussi des associations qui nous font venir ou des communes pour faire une petite activité culturelle un soir, par exemple, avant peut-être de regarder le vrai ciel.
Voilà, puis toutes les infos sur le site, hein, on le remettra sur le Facebook également. Allez, vous allez nous présenter cette 43e chronique astro et sur l'actu, bien InSight en route vers Mars, Michel.
Voilà, comme j'avais annoncé la dernière fois, la sonde InSight de la NASA s'est bien envolée le 5 mai dernier de la base militaire Vandenberg en Californie, propulsée par une fusée américaine Atlas. Hein, je rappelle que c'est toujours environ 3 mois avant l'opposition de Mars, le 27 juillet prochain cette année, que les missions martiennes sont lancées pour bénéficier de la trajectoire la plus courte entre les deux planètes. Ce petit atterrisseur de 360 kg, qui ne se déplacera pas à la surface de la planète rouge, est équipé de capteurs thermiques et sismiques, dont l'objectif est de mieux connaître la structure interne de Mars, d'où son nom InSight, hein, ce qui veut dire « vue intérieure » en anglais, qui est en fait l'acronyme de « Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport ». Soit en français, exploration interne par les sondages sismiques, la géodésie et les flux thermiques. Il doit se poser le 26 novembre dans la région de la plaine Élysée, hein, Elysium Planitia en latin, comme on dénomme les structures martiennes. Un moment crucial de la mission qu'on suivra de près, car ne l'oublions pas, environ la moitié des missions martiennes se sont écrasées au lieu d'atterrir en douceur. La dernière en date étant l'atterrisseur Schiaparelli de la mission ExoMars de l'ESA, hein, l'agence spatiale européenne, en 2016, dont l'orbiteur américain MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, a fourni ironiquement de belles images du site de crash quelques jours après la catastrophe. Une nouvelle mission ExoMars est d'ailleurs prévue pour l'opposition de 2020, dans 2 ans.
Un relais entre la Lune et la Terre.
Voilà, dans son programme d'exploration lunaire, la Chine a mis en place le 20 mai dernier le satellite. Alors, je ne garantis pas la prononciation, mais ça doit être quelque chose comme Keqiao, élément indispensable de la future mission Chang'e, je pense, 4, hein, la prononciation du chinois, c'est pas mon truc, prévu pour la fin de l'année. En effet, ce rover, qui fait suite à Chang'e 3, posé à la surface lunaire en 2013, explorera une portion de la face cachée de la Lune, où aucun engin ne s'est posé depuis 1962, il y a plus de 50 ans. Du fait de la rotation synchrone de la Lune, c'est-à-dire que la rotation de la Lune sur elle-même a la même durée que sa révolution autour de la Terre, cette partie de la surface lunaire nous reste perpétuellement cachée. Donc pour pouvoir communiquer avec une sonde là-bas, il faut disposer d'un satellite relais placé pour pouvoir contacter à la fois l'engin masqué pour nous et les antennes de réception terrestre. Ce sera le rôle de Keqiao avec son antenne parabolique de 4,20 m de diamètre.
Une carte plus belle qu'une photo. Pardon Michel, j'étais emporté par votre
Alors,
chronique.
J'ai pas eu de chance pour ma dernière chronique du 25 avril dernier, car c'est le jour même où l'ESA, toujours l'Agence spatiale européenne, a publié une image époustouflante. À première vue, on pourrait croire que c'est la énième photo de la Voie lactée, notre galaxie, mais en réalité, c'est une image synthétique réalisée en replaçant à leur position les 1 milliard 700 millions d'étoiles cartographiées par la mission européenne Gaïa. L'image complète représente 8 milliards de pixels, environ 400 fois, je me suis amusé à calculer, la taille des photos produites par un réflexe numérique comme celui que je possède. On peut en voir une version réduite publiée par l'APOD, Astronomy Picture of the Day, à la date du 27 avril. Et on pourrait mettre le lien peut-être sur le site ou sur le Facebook. Lancée fin 2013, cette sonde européenne, Gaïa, d'environ 2 tonnes, avait pour mission de cartographier les étoiles voisines, hein, car 1 700 milliards d'étoiles ne représentent jamais que 1% de toutes les étoiles de la Voie lactée. Avec une précision 3 fois meilleure que le précédent satellite, Hipparcos, qui en avait mesuré environ 120 000 au début des années 1990. Gaïa a commencé ce travail de fourmi en juillet 2014 et devrait le poursuivre jusqu'à fin 2020. Le catalogue publié en ce mois d'avril n'est donc qu'une version intermédiaire, la deuxième après celle de 2016 qui ne portait, si j'ose dire, que sur environ 1 milliard d'étoiles. Il devrait y avoir une troisième publication en 2019 et la version définitive est attendue pour 2022. Il ne fait pas de doute que ce sera, et c'est même déjà, un outil révolutionnaire pour les astronomes, car la connaissance précise de la position des objets est nécessaire à leur étude. Il faut comprendre que la position mesurée par Gaïa n'est pas en deux dimensions sur la voûte céleste, hein, ce que les astronomes appellent l'ascension droite, qui serait l'équivalent de la longitude sur la Terre, et déclinaison, qui serait analogue à la latitude sur Terre, mais en trois dimensions en ajoutant la profondeur, donc la distance séparant la Terre de l'étoile, avec une précision de l'ordre de 1%. Pour cela, il utilise la méthode habituelle de la parallaxe annuelle, c'est-à-dire la mesure du petit déplacement des étoiles par rapport à des objets plus lointains, comme par exemple des galaxies, à 6 mois d'intervalle, période pendant laquelle la Terre se déplace d'environ 300 millions de kilomètres dans sa révolution autour du Soleil. Nos auditeurs peuvent facilement expérimenter cet effet de parallaxe. En fermant un œil, ils placent leur pouce bras tendu juste devant un élément lointain du paysage, par exemple un arbre, un lampadaire ou même la fenêtre d'un bâtiment voisin, et même peut-être un repère intérieur si on est dans une pièce assez grande. En fermant l'œil pour ouvrir l'autre, on constate que le pouce est décalé par rapport au repère qu'on avait pris. En connaissant la distance entre les deux yeux, ce qui est l'équivalent aux deux positions de la Terre à 6 mois d'intervalle, et en appliquant des lois géométriques simples, la mesure précise de ce décalage permet de calculer la longueur de notre bras, c'est-à-dire la distance séparant notre œil et le pouce. Et pour Gaïa, ce serait la distance entre la Terre, donc ce qui serait notre œil dans l'expérience qu'on vient de faire, et l'étoile qui serait le pouce. La mesure de cette distance est très importante, elle permet de connaître la véritable luminosité intrinsèque des étoiles et non leur éclat apparent tel qu'il est perçu depuis la Terre, puisque la luminosité d'une étoile décroît au fur et à mesure qu'on s'éloigne d'elle. Par exemple, le Soleil qui est éblouissant dans notre ciel terrestre n'est plus qu'une étoile très brillante vue depuis Neptune, planète située environ 30 fois plus loin, recevant donc environ 900 fois moins de lumière solaire. Et avec leur luminosité intrinsèque, donc leur puissance, on peut déduire d'autres caractéristiques physiques de ces étoiles. Même si c'est sa mission principale, la cartographie des étoiles n'est pas le seul résultat fourni par Gaïa. En les mesurant sur une assez longue période, il détecte leur mouvement, ce qui permet de mieux connaître la structure de notre galaxie avec, si je peux dire, des courants d'étoiles qui la parcourent, et donc de mieux comprendre sa dynamique et peut-être même sa formation par l'absorption de plus petites galaxies. On a aussi mesuré la luminosité des étoiles et leurs variations, permettant de mieux connaître les étoiles variables. Et la sonde a aussi décomposé leur lumière en spectres pour les plus brillantes étoiles, ce qui permet donc de mieux connaître leur température et leur composition. On voit donc que ce genre de mission, assez peu connue du public en ne produisant pas d'images spectaculaires, excepté la fameuse carte du 25 avril, et ne connaissant pas d'épisodes dramatiques comme l'atterrissage à la surface d'une planète ou d'une comète, sont pourtant d'une importance considérable pour faire progresser l'astronomie.
Et un nouvel extraterrestre dans le système solaire.
Oui, les auditeurs se souviennent peut-être de Oumuamua, un éclaireur dans la langue hawaïenne, dont nous avions parlé en novembre dernier. Cet astéroïde apparemment en forme de cigare qui a traversé le système solaire, utilisé le Soleil pour doubler sa vitesse par le mécanisme de fronde gravitationnelle et dont la trajectoire hyperbolique indiquait qu'il venait d'un autre système stellaire, toutes ces caractéristiques le faisaient étonnamment ressembler à Rama, un engin extraterrestre décrit dans le roman du même nom publié en 1973 par Arthur C. Clarke, auteur bien connu de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et bien, la semaine dernière, deux chercheuses, Fatih Namouni de l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice et Helena Moraes, je suppose, de l'Université d'État de Sao Paulo au Brésil, ont annoncé leurs résultats publiés dans la prestigieuse revue Astronomie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Il concerne l'astéroïde numéroté 2015 BZ509, c'est toujours un peu bizarre les noms d'astéroïdes, donc en fait découvert en 2015. Il possède la particularité assez rare d'avoir une révolution rétrograde autour du Soleil. En effet, la plupart des corps du système solaire, planètes, satellites, astéroïdes, tournent tous dans le même sens. Tout simplement parce qu'ils se sont tous formés dans un disque de gaz et de poussière en rotation autour du jeune Soleil. Les exceptions sont très rares et souvent des objets situés très loin, aux confins du système solaire, ce qui n'est pas du tout le cas de BZ, c'est son petit nom aujourd'hui, dont l'orbite est analogue à celle de Jupiter avec une période d'environ 11 ans et demi. C'est pour élucider l'origine de cette particularité que les deux chercheuses ont procédé à des simulations numériques pour tester différentes hypothèses sur son histoire possible. Mais aucune ne fonctionne, excepté une provenance extérieure au système solaire, cet astéroïde ayant été capturé, si je peux dire, au passage, par la forte attraction de Jupiter. Ce serait donc un autre cas d'astéroïde extraterrestre, et certains n'hésitent même pas à l'appeler déjà « alien astéroïde ». Alors, une coïncidence intéressante, alors que j'ai préparé cette chronique ces derniers jours, je me suis aperçu ce matin que l'APOD, Astronomy Picture of the Day, publie aujourd'hui même une petite animation montrant ce mécanisme de capture de l'astéroïde dans le système solaire par l'attraction de Jupiter. Si les auditeurs la regardent, ils verront aussi une catégorie particulière d'astéroïdes qu'on appelle troyens, qui accompagne Jupiter dans sa révolution autour du Soleil. On a l'habitude de dire que les astéroïdes orbitent entre Mars et Jupiter, pour simplifier, et c'est vrai pour la plupart d'entre eux, mais il en existe d'autres catégories avec des trajectoires un peu différentes, comme les troyens, ou, ce qui nous concerne plus directement, les géocroiseurs, dont l'orbite allongée les fait croiser l'orbite des planètes intérieures, comme notre Terre, ce qui pourrait potentiellement... et qui pourrait potentiellement nous heurter un jour. Parmi toute cette variété, on connaît une dizaine d'autres cas d'astéroïdes ayant des mouvements rétrogrades, qui sont peut-être aussi d'origine externe au système solaire, et on peut s'attendre à ce que dans les prochains mois, des équipes de chercheurs, peut-être la même que pour BZ, essaient de le démontrer.
Allez, deuxième partie de votre chronique, Michel. Là, vous allez revenir sur le sujet et la thématique, les satellites artificiels et leur observation.
Voilà, j'ai choisi ce thème car depuis une dizaine de jours et jusqu'au 8 juin, nous sommes dans une période favorable d'observation du plus gros de ces satellites, la Station Spatiale Internationale, qu'on appelle ISS en anglais, véritable laboratoire spatial accueillant un équipage de 6 astronautes en permanence. Actuellement, il y en a 3 de la NASA, 2 russes, dont le commandant de la mission, et un japonais. Et la semaine prochaine, le 6 juin, ils seront relevés par une nouvelle équipe composée d'un russe et 2 américains. On les remplace par moitié à chaque fois. Si la météo le permet, on peut voir l'ISS traverser le ciel d'ouest en est pendant environ 7 minutes, comme un point très brillant, parfois presque autant que Vénus, qu'on repère bien à l'ouest en début de nuit. Par contre, il faut que le ciel soit un peu assombri, l'ISS n'étant pas visible en plein jour, et ces observations ne sont donc possibles qu'assez tard, entre 22h20 à peu près 23h40. C'est un horaire différent chaque jour, je les mettrai sur le site de Constellations et Galaxies. Elle repasse souvent dans la nuit vers 1h ou 2h du matin, puisqu'elle ne met que 1h30 à effectuer une orbite complète autour de la Terre. Malgré son éclat souvent impressionnant, ce qu'on voit n'est que le reflet du Soleil sur ses panneaux solaires, qui sont presque aussi grands qu'un terrain de foot. Et souvent, elle est à très grande distance, l'ISS est parfois à plus de 1000 km de nous quand on peut la voir dans le ciel, la distance minimum est d'environ 400 km quand elle passe pile au zénith, c'est-à-dire juste au-dessus de notre tête. Il existe plusieurs sites internet gratuits prédisant les passages des satellites artificiels, mais je conseille celui que j'utilise personnellement qui s'appelle Events Above. Il a l'avantage d'avoir une version en français et de nombreuses autres langues aussi. Il propose même une version Android pour les tablettes ou les smartphones. Une fois sur le site, on peut se créer gratuitement un compte afin de définir un ou plusieurs sites d'observation, configuration qui est mémorisée et réutilisable à chaque consultation. C'est très important de le faire le plus précisément possible, car l'observation des satellites artificiels peut varier énormément à quelques kilomètres près, parce qu'ils se déplacent sur des orbites très proches, qui n'ont rien à voir avec les distances des objets célestes, dont la vision est globalement la même pour tous les terriens, même pour le plus proche qui est la Lune. C'est particulièrement vrai pour un autre phénomène appelé flash iridium, dont la survenue ou l'éclat change beaucoup selon la position de l'observateur au sol. Il s'agit du reflet, parfois plus brillant que Vénus, du Soleil sur les antennes et panneaux solaires de ces satellites de communication directs avec des téléphones dits satellitaires et non cellulaires comme ceux que nous possédons tous ou presque. Cet éclat n'est souvent perceptible que de manière très fugitive, typiquement dans les 30 secondes, d'où l'importance de connaître leur horaire avec précision. On les voit comme un petit point brillant devenant de plus en plus lumineux jusqu'au flash, puis une rapide décroissance de la luminosité. Contrairement à l'ISS, parfois visible d'un horizon à l'autre, les iridiums ne se manifestent que sur une portion de leur trajectoire dans le ciel, d'où l'intérêt de la carte proposée par le site, montrant la trajectoire exacte dans le ciel et l'endroit précis du flash. D'autres satellites produisent aussi ce genre de flash ou de clignotement, comme des débris de fusées qui orbitent parfois depuis des décennies au-dessus de nos têtes, leur éclat variant beaucoup selon que le Soleil se reflète sur leur long côté ou leur petite section quand ils tournent sur eux-mêmes. Attention, les objets les plus lents qui traversent le ciel la nuit en clignotant rapidement sont plutôt des avions, bien reconnaissables à leur son. Les satellites sont totalement silencieux. Contrairement à d'autres sites plus complets, mais en langue anglaise, Events Above ne prévoit pas ces autres types de flash. Mais il nous donne la liste de tous les satellites visibles pendant une nuit avec leur trajectoire précise dans le ciel. Il y en a sans arrêt et il n'est pas rare d'en repérer plusieurs pendant une soirée d'observation au télescope, par exemple quand je sors avec mon club astro, sans même les chercher, juste en remarquant d'un seul coup un point en déplacement parmi les étoiles, aussi bien à l'œil nu que parfois dans le télescope ou la lunette. Il y en a tant que ce site d'éphémérides permet de les filtrer par luminosité. Pour donner une idée, j'ai consulté hier ces prévisions pour cette nuit, donc du 30 mai. On en a 14, dont l'ISS, de magnitude inférieure à 3, donc bien lumineux, avant minuit, et 28 en deuxième moitié de nuit jusqu'à l'aube, soit 42 en tout. Si on règle la magnitude à 4, donc c'est un peu moins lumineux, on en a à peu près 3 fois plus. Et à la magnitude 5, là c'est souvent à la limite de la perception dans un ciel noir de campagne, cela double encore le nombre de satellites visibles. Il ne faut pas s'étonner de ces centaines de satellites visibles en une seule nuit, car c'est un véritable essaim qui bourdonne autour de la Terre. On estime qu'il y a environ 3500 satellites actifs au-dessus de nos têtes et 2000 hors d'usage, nombre difficile à déterminer précisément en raison des satellites à usage militaire, dont les lancements et les caractéristiques sont généralement secrets. Mais si on ajoute les débris, comme par exemple les étages de fusées restés en orbite, c'est beaucoup plus. Les spécialistes évaluent à environ 35 000 les objets de plus de 10 cm autour, en orbite autour de la Terre. Certains pensent d'ailleurs que des solutions devront prochainement être mises en œuvre pour nettoyer l'espace autour de la Terre, notamment certaines orbites particulièrement utiles, comme l'orbite géostationnaire par exemple, c'est-à-dire une orbite équatoriale à environ 36 000 km d'altitude, où les lois de Kepler rendent le satellite fixe par rapport au sol, ce qui est très utile pour les communications comme par exemple la diffusion d'émissions de télé captables avec une petite parabole fixe. Cette flotte de satellites est extrêmement variée selon leur usage. Aussi bien en taille, depuis des microsatellites d'une dizaine de centimètres jusqu'à l'énorme ISS de 450 tonnes et grande comme un terrain de foot pour ses panneaux solaires. Leur altitude est très différente depuis des orbites basses comme celle de l'ISS à environ 400 km jusqu'au géostationnaire à 36 000 km, en passant par les satellites du GPS à environ 20 000 km d'altitude. Et aussi leur inclinaison allant de l'équateur, notamment pour les géostationnaires, à des orbites polaires, c'est-à-dire survolant les deux pôles. Orbite très utile pour certains satellites d'observation de la Terre, dont la lente rotation en 24 heures leur permet d'explorer toute la surface en quelques révolutions. Ils diffèrent aussi par leur fonctionnement, qui peut être isolé ou collectif sous forme de constellations, comme on les appelle. Par exemple, les GPS, il y a 31 satellites actifs, ou les Iridium, il y a 66 satellites actifs. Certains imaginent même que dans le futur, des méga-constellations de centaines ou milliers de satellites en orbite très basse, par exemple pour constituer un réseau maillé de transport des informations pour l'Internet. On peut donc affirmer qu'on n'a pas fini de voir passer des petits points lumineux au milieu des étoiles quand on lève les yeux vers le ciel. Mais avant de penser à un truc bizarre, comme les fameux ovnis, je conseille aux auditeurs de noter soigneusement l'heure et repérer la trajectoire dans le ciel par rapport aux constellations. Si on ne les connaît pas, on peut au moins repérer dans quelle région du ciel on voit le petit point brillant, l'est, le sud, l'ouest ou le nord, la hauteur approximative et la direction du déplacement. En consultant ensuite un site comme Events Above, ces éléments permettront de constater qu'il s'agit en fait d'un OVI, objet volant identifié, et de connaître précisément sa nature, satellite, débris de fusée ou autre. Malgré les nombreuses heures que j'ai déjà passées dehors à observer la voûte céleste, je n'ai pour ma part jamais vu d'OVNI jusqu'à présent. Mais ça viendra peut-être un jour.
Peut-être. Allez, troisième partie de votre chronique, le ciel du mois.
Alors comme dans les dernières chroniques, je vais résumer cette partie en renvoyant plutôt les éditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes du ciel correspondantes et avoir plus de détails. C'est quand même plus facile d'avoir des images que la radio. Avec l'allongement de la durée du jour pendant tout le printemps, la nuit est de plus en plus tardive, avec un soleil qui se couche en ce moment un peu avant 21h45, 10h moins le quart, et la nuit qui survient vers 23h, et même minuit pour un ciel vraiment noir. À la fin juin, peu après le solstice d'été, le jour le plus long de l'année, ce sera vers 21h50 pour le coucher, 23h15 pour la nuit, et un ciel noir seulement vers minuit et demi. Donc c'est la période la plus défavorable pour les astronomes, avec une nuit noire très très courte, d'environ 3h30. En France. En début de nuit, vers 23h, le ciel de printemps commence à basculer vers l'ouest, comme la constellation typique du Lion, bien reconnaissable à sa crinière dont les étoiles forment comme une faucille dans le ciel, qui est déjà presque à mi-chemin de son coucher, suivi par les constellations, la constellation de la Vierge, qui forme un peu comme un grand Y derrière la queue du lion, qui a déjà franchi le méridien à cette heure-là. Donc la moitié sud-est du ciel est déjà bien occupée par des constellations du ciel de l'été, comme le Scorpion, Hercule et le Triangle de l'été, qui se lèvent tout juste, Altaïr étant au ras de l'horizon est, surmonté de Deneb et Vega, plus haut dans le ciel, les trois étoiles les plus brillantes du ciel d'été. Fin juin, à la même heure, le lion sera sur le point de se coucher, alors que le scorpion arrivera déjà au sud, suivi du sagittaire tout juste levé. Donc le ciel de printemps sera déjà en train de céder sa place au ciel d'été, saison qui aura tout juste commencé avec le solstice du 21 juin. Côté planète, la très brillante Vénus s'allume à l'ouest dans les lueurs du crépuscule, peu après le coucher du soleil, et reste visible jusqu'à passer minuit en ce moment. Ce sera identique pour tout le mois de juin. En même temps, si on se tourne vers le sud-est, on peut voir la brillante Jupiter monter lentement dans le ciel qu'elle traverse pendant toute la nuit jusqu'à l'aube. Fin juin, elle se couchera plus tôt, autour de 3h du matin, et sera observable déjà haute au sud dès le début de nuit. Je rappelle aux auditeurs qu'avec de simples jumelles, il est possible d'apercevoir jusqu'à 4 satellites formant comme un alignement de petites étoiles autour de la planète géante, et dont la position varie en quelques dizaines de minutes. Ça, il faut le voir plutôt dans une lunette ou un télescope. Les autres planètes sont visibles plutôt en deuxième partie de nuit, avec Saturne qui se lève actuellement vers 23h30, mais dès le crépuscule à la fin juin, et Mars levé vers 1h30 en ce moment, un peu avant minuit fin juin. Comme on se rapproche de l'opposition de fin juillet, la planète rouge devient de plus en plus brillante, plus que n'importe quelle étoile à partir du 10 juin, et si on observe jour après jour sa position dans le ciel, on pourra constater qu'elle commencera fin juin à rétrograder, c'est-à-dire à aller d'est en ouest par rapport aux étoiles, à l'inverse de son mouvement habituel. Si la météo veut bien être favorable pour faire au moins une image par semaine, j'ai entrepris de montrer ce mouvement en commençant les prises de vue il y a 15 jours. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir continuer, ça dépend du ciel. En juin, il y aura plusieurs conjonctions de la Lune avec ses planètes. En commençant par la nuit de ce jeudi 31 mai, à partir de minuit environ, avec une grosse lune gibbeuse qui accompagnera Saturne dans le ciel. Puis la nuit de samedi à dimanche, à partir de 1h30 environ, où elle accompagnera Mars. Puis il faudra patienter jusqu'au samedi 16 pour voir un fin croissant à côté de Vénus dans le crépuscule et le début de nuit. Et la semaine suivante, le samedi 23, la lune gibbeuse accompagnera Jupiter toute la nuit. Et puis ça recommencera, le mercredi 27, la pleine lune avec Saturne, et le samedi 30, une grosse lune gibbeuse avec Mars. Enfin, je rappelle, comme je viens d'en parler, le passage quotidien de l'ISS entre 22h30 et 23h30 à peu près jusqu'au 8 juin. Je mettrai les horaires exacts sur la page Ciel du mois de nos sites web pour ceux qui ne veulent pas consulter directement Events Above dont j'ai parlé tout à l'heure. Et bien sûr, rendez-vous en principe le mercredi 27 juin pour la prochaine chronique du début de l'été, puisque comme vous le disiez, Joël, ça fait bientôt 4 ans que j'assure des chroniques, donc je fais un petit peu partie de la maison.
Voilà, tout à fait. Vous faites partie de la grande famille. Le rendez-vous est pris pour le 27 juin, sauf si d'autres événements... mais on ne va pas extrapoler. Allez, Michel, encore un grand merci. Un grand merci, parce que la passion, voilà, les compétences, certes, mais c'est tout le travail également pour ces chroniques. Alors vraiment, un grand merci. On va se quitter en rappelant, bien sûr, qu'on peut retrouver ces chroniques sur le site constellationsetgalaxies.org, mais pas que, beaucoup d'infos, l'actualité. Donc si on est passionné, c'est vraiment le site qu'il faut avoir dans ses favoris.
Donc sur le site, on va trouver surtout un onglet Planétarium qui parle de nos séances de Planétarium, des conditions d'accueil, il faut de la place et des tarifs, parce que malheureusement c'est pas gratuit, on n'est pas suffisamment subventionné pour pouvoir se permettre ça. Il y a une partie qui parle d'exposition, mais ça concerne que la Dordogne, donc je la développe pas ici. Il y a une partie atelier, alors ça j'en parle parce que depuis bientôt un mois, j'ai commencé à expérimenter des ateliers de robotique avec un collège, le collège Vaillant à Bordeaux, et ça marche pas mal avec des systèmes à base de kits Lego qui sont bien sympathiques à utiliser. Et effectivement, le dernier onglet qui est astronomie, qui peut peut-être intéresser le plus nos auditeurs, dans laquelle on trouve la page Le ciel du mois, où je donne les cartes et de manière plus complète ce que je viens de résumer là dans la chronique, et sur laquelle on trouve aussi la page qui permet de retrouver toutes les chroniques depuis le début si on veut les réécouter.
Voilà, je ne sais pas si vous voulez redire quelques mots dans les grandes lignes. Allez sur le site pour plus d'infos.
Si je peux passer un message personnel, je peux souhaiter un bon anniversaire à mon ami dont c'est exactement les 60 ans aujourd'hui, même si on ne doit pas donner l'âge d'une femme en
Michel,
pratique.
Quand même.
Bon, je la suivrai dans 6 mois, donc il n'y a pas mort d'homme.
Voilà, petit message personnel. On vous doit bien ça. En tout cas, merci beaucoup, Michel. Et vraisemblablement, au 27 juin. Sauf si l'actualité fait que, si entre-temps, des extraterrestres ou
on fera une chronique spéciale dans ce cas-là.
Voilà,
avec
donc
des
là,
photos.
On se rend direct
J'ai remarqué la soucoupe qui est en train d'arriver près du bassin à flot l'autre jour en passant à Bordeaux et j'en ai pris quelques images.
On en a parlé, effectivement, dans le cas de ces brèves et voilà, pas mal de médias l'ont relayé. En tout cas, merci, Michel.